RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Football Show. Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Ravi d'être avec vous, soyez les bienvenus dans l'after, c'est parti pour deux heures de bonheur. Au sommaire de cet after, on est au lendemain du choc entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Les avis tranchés de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo dans quelques instants, les questions de l'after et puis dans une heure, à partir de 23h, les drôles de dames seront avec nous. On fera un tour d'Europe avec eux, avec nous ce soir donc. Pierre Ducrot, bonsoir Pierre.
Bonsoir Daniel, bonsoir Nicolas.
Ça va Pierre?
Très bien, pleine forme. Moi je passe le bonjour à tous les abrutis qui ont cru inventer le tennis dans leur vie. Voilà, c'est un petit bonjour, c'est un petit message.
Bonsoir Daniel Riolo.
Bonsoir les amis.
Tout va bien? C'est parfait. Messieurs, ça joue en ce moment en Ligue 2, Clermont-Brest, l'une des affiches de la 21e journée de Ligue 2. Julien Théier et Gabriel Montpied. Ouais. Salut Julien.
Salut les gars. Ouais, 62e minute, c'est... il fait froid, on est pas loin de la neige, mais en tout cas on assiste à un match superbe entre le Clermont Foot et Brest à l'instant. Oui, l'égalisation. Brestois, l'égalisation clermontoise. Brest qui menait d'abord 2-0 avec 2 buts rapides signés JCP, un but extraordinaire du bord de la ligne de touche, une frappe pleine lucarne, un but de Mathias Autré, frappe contré qui trompe Mehdi Jeannin, ça faisait 2-0 pour Brest à la 20e minute. Et puis les Clermontois sont remis dedans. D'abord un but juste avant la pause signé Florian Allais à la 45e. Et puis depuis le début de cette seconde période, les Clermontois qui mettent le feu là sur les Brestois. Il y a eu pas mal d'occasions, ils ont touché la barre les Clermontois. Et à l'instant, Franck Honora qu'on retrouve dans cette seconde période. On l'avait pas vu en première. Là, il vient récupérer un ballon dans l'axe, dans les pieds d'un défenseur brestois. Il sert dans la profondeur, une passe magnifique pour Florian Allais qui signe un doublé. Ça fait donc 2 buts partout désormais après 62 minutes entre le en foot et Brest.
Ouais, et avec ce résultat, pour l'instant, ils reviennent à hauteur de Metz, hein, au classement. Hein. Ils sont en dessous à la différence de but, les Brestois. Deuxième. Pas mal, non? C'est bien pour Brest. Ça joue également en Angleterre. Dixième journée de Première Ligue.
Tu aimerais bien voir Brest jouer cette année, Daniel?
Très bien.
Non, mais là, pour l'entouche, toujours.
Ouais, non, mais c'est vrai, que t'aimerais bien. Ouais,
c'est vrai que ça joue pas mal. C'est la mi-temps entre Tottenham et Manchester City. Ouais. Il est là, Arthur Perrault.
Salut Nicolas.
Ça va,
bonsoir messieurs, bonsoir à tous. C'est reparti. Salut, à l'instant Nicolas Webley. Et Manchester City qui mène toujours 1-0 face à Tottenham dans des conditions de jeu un peu particulières messieurs, avec une pelouse compliquée pour la simple et bonne raison que Wembley accueillit hier soir un match de football américain entre Philadelphie et Jacksonville. Du coup des conditions de jeu un peu compliquées.
Enfin, mais une pelouse pourrie quoi, on va dire les choses clairement.
Un peu pourrie.
On peut le dire.
Et du coup City qui mène grâce à un but dès la 5e minute de jeu de Riyad Mahrez, le natif de Sarcelles qui a déjà inscrit 4 buts Nicolas depuis le début de la saison de Première Ligue.
Merci beaucoup, on y reviendra tout à l'heure notamment avec Julien Laurence bien entendu avec nos drôles de dames. Et sachez qu'il reste 30 minutes à jouer. Comment?
Ça démarre quand l'after?
Après. Bah, c'est en lien, là. Attends, on fait les résultats et tout. On fait de l'info aussi. C'est ça, c'est RMC. Il reste 20 minutes à jouer entre la Lazio et l'Inter. Et l'Inter mène 3-0 face au club romain. On y va! On démarre cet after. On est au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain. 2-0 hier au Vélodrome. Affiche de la 11e journée de Ligue 1. Avis tranché de Daniel Riolo.
Très franchement, je me suis en train de m'ennuyer moi-même, là.
Pourquoi pas? Alors toi, tu voulais revenir sur l'analyse d'après-match de Rudy Garcia. Petit extrait d'ailleurs, avant d'avoir ton avis tranché, sur cette analyse justement de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille à la suite de cette défaite 2-0 face au PSG hier soir.
Il y a le score, il y a le contenu. Sur le contenu, même les chiffres le disent, on a fait jeu égal avec le Paris Saint-Germain. Je pense que le score est pas logique. Après, ils ont un Kylian Mbappé qui fait la diff, donc c'est ce qu'il a fait quand il est rentré. Mais moi, franchement, j'ai juste à féliciter mes joueurs et voilà, ils ont fait le match que j'attendais d'eux.
Alors c'est vrai que si on regarde les chiffres bruts, alors mis à part le score, parce qu'il y a 2-0 pour le PSG, c'est vrai que les statistiques.
Il y a un des chiffres les plus importants.
Voilà, mais c'est vrai que les statistiques, finalement, en termes de possession de balle, bon, 53 pour le Paris Saint-Germain, même nombre de tirs de chaque côté, 13. Et bon, il y a eu 2 tirs cadrés pour l'OM, 6 pour le PSG. C'est vrai qu'au niveau stade pur, il n'y a pas un grand écart. La diff, elle se fait ailleurs. Mais toi, tu trouves qu'il manque de lucidité, Rudy Garcia, Daniel?
Bah, c'est même plus de la lucidité à ce niveau-là. Moi, je pense que Rudy Garcia régulièrement fait des analyses complètement faussées. Et alors, j'en suis à me demander si c'est pas conscient et s'il ne ment pas, parce que s'il ne ment pas, c'est presque pire. Il avait dit avant le match, on ne pourra pas faire que défendre. Mais il a mis une équipe 109. Vous me direz qu'il en a pas. Et il a fait quoi finalement? Il a ajouté, il faudra qu'on trouve un bon équilibre entre bien défendre, comme on l'a fait à Nice. À Nice, il a bien défendu à Nice. Une équipe avec un tout petit peu plus de réalisme ou d'efficacité, il en prend deux en première période. Comment il peut dire qu'il a bien défendu à Nice? Comment il peut dire qu'il l'OM a bien défendu à Nice? Là, pour le coup, c'est lui qui s'arrête uniquement au score. Bon équilibre donc entre la bonne défense et le côté virevoltant de son attaque habituelle. C'est ça qu'il avait dit. Il a fait quoi au juste dans le match hier? Jeu égal, dit-il. Ben, par exemple, c'est beaucoup moins bien que l'année dernière, dans le 2-2, par exemple. Donc en un an, il n'a pas du tout progressé. Entre-temps, il avait pris deux raclées au parc. Pareil, en trouvant des excuses absolument minables. Mais moi, je n'ai pas oublié le comportement, le sien et celui de son équipe, lors de ces deux matchs-là, qui avait, je m'en souviens, provoqué non pas ma colère, parce que moi, je n'ai pas à être en colère sur ce que fait Paris, Lyon, Marseille, je m'en fous, mais la colère d'un ancien, comme ça, on me dira pas, c'est Riolo, mais Riolo, il aime pas l'OM. Jusqu'à preuve du contraire, il me semble qu'Eric Dimeco, lui, il aime plutôt l'OM. Et donc ça avait provoqué la colère de Dimeco, je m'en souviens très bien, au printemps dernier, là, fin de l'hiver. Et hier soir, pareil. Et il en a parlé aujourd'hui, je l'ai écouté. Donc j'aime bien, moi, citer Eric, parce que ça me donne une caution, parce que y a tellement d'abrutis là-bas qui pensent que je suis anti-OM et que je ne suis pas juste, ce qui est absolument faux, évidemment, puisque j'ai toujours plutôt été très objectif sur l'OM. Eric a dit, vous vous rendez compte quand même que le PSG s'est présenté avec Bernat, Nsoki, Kerrer et Choupo-Moting. 4 joueurs. 4 joueurs sur 11, c'est beaucoup, hein. C'est pas une moitié d'équipe, mais...
Bah ça, on était plus choqués par la compo départ du PSG que par celle de l'OM.
Voilà. Donc, tu vois, on n'est pas en train de parler de Cador, là, quand même, hein, sur les 4 que je cite, hein. Il y a un tracteur, un mec qui fait pas un centre, un jeune du centre de formation, certes avec beaucoup de potentiel, mais qui débute, et Kerrer qui est à peine arrivé et dont on voit que oui, effectivement, ça va être un bon joueur, mais qui débarque à peine, quoi, quand même, hein. Voilà. Et avec ça, donc il dit, il trouve encore des excuses. Donc en disant qu'il a fait jeu égal, moi il ne me semble pas. J'ai vu le coup franc de Payet et une frappe un peu chanceuse là qui a pris l'extérieur de du poteau du but de d'Areola d'Amavi. Voilà à peu près tout ce qu'il y avait, parce que pour le reste, il y avait absolument rien dans le jeu de l'OM. Alors ensuite, il est évidemment comme à son habitude, il a pleuré sur l'arbitrage. Alors il le faisait avant la VAR. Il a chouiné pendant des mois, des années sur le fait qu'il voulait la vidéo dans le foot. Il a la vidéo dans le foot. Et il hurle encore. Mais il hurle en plus de mauvaise foi. Parce que ce qu'il dit, c'est pas qu'il analyse mal et qu'il fait une erreur. C'est qu'en plus, c'est un énorme mensonge de dire qu'un but a été annulé. C'est un énorme mensonge de dire ça. C'est très très grave de dire ça. Parce que c'est tout simplement factuellement faux. Voilà. Donc il est suivi par son président qui lui aussi... à chouiner, lui il se voile encore plus la face et il ment aux supporters de l'OM. Et moi je déteste quand on ment aux supporters. C'est un peu comme les hommes politiques qui font avaler des couleuvres et qui sortent balivernes sur balivernes à longueur de semaine. Voilà. En fait, pour conclure, je crois que ce qu'a fait l'OM hier, c'est tout simplement dans la continuité de ce que l'OM a fait contre la Lazio, contre Francfort, à Limassol, contre Nice, où au-delà du résultat, l'OM a été mauvais. Mais quels matchs ont été réussis par l'OM cette année finalement? Contre Guingamp, contre Caen, contre Monaco, le 20e, le 15e et le 19e de Ligue 1.
Non, même pas contre Caen.
On va ajouter.
Caen, c'était plutôt abouti. Hein. Ils n'ont pas été dérangés, quoi. Ils étaient maîtrisés.
Je l'ai mis exprès dans le paquet.
Ouais.
Et on va ajouter Toulouse le 10 août. Le 10 août.
Première journée, je crois. Le 4-0.
Le 4-0. Voilà. Voilà les matchs réussis par l'OM. Amis supporters de l'OM, ouvrez un petit peu les yeux sur les âneries que vous raconte votre coach. Alors, donc en fait, au-delà, là-dessus, et je vais finir là-dessus.
Moi, je mettrai. Ouais. Alors vas-y.
Finis. Non, termine. Dis-moi.
Je mettrai le début de saison entre parenthèses parce qu'effectivement, il y avait peut-être des circonstances atténuantes avec des absents, des joueurs qui n'étaient pas à leur poste, etc.
Bah, c'est pourtant là qu'ils ont
les meilleurs résultats.
C'est pourtant là qu'ils ont les meilleurs moments.
Sauf que là, maintenant, tu retrouves tous les joueurs dont t'as besoin, quasiment tous les joueurs qui peuvent jouer à leur poste et que ça marche moins bien qu'au début de saison.
Voilà. Donc je crois qu'il leur ment. Je crois qu'il raconte des âneries aux supporters, qu'il leur fait avaler des couleuvres, que ça dure, que lui et Héro continuent de le faire, qu'on peut faire une saison avec la niaque et le caractère et la grinta, ça arrive, beaucoup de clubs ont vécu ce genre de choses, on ne fait pas deux ans comme ça. À un moment, il faut autre chose dans une équipe, sinon ça tire. Sinon, le manque de réussite commence à poindre le bout de son nez, les efforts collectifs ne se font plus ensemble. À un moment, sans le jeu, uniquement la grinta, ça ne peut pas suffire au haut niveau. Donc, la mauvaise nouvelle, finalement, pour l'OM, aujourd'hui, c'est pas la nouvelle défaite, la énième défaite contre le PSG. La mauvaise nouvelle pour l'OM, c'est la prolongation de 2 ans de Rudy Garcia. Parce que je pense qu'avec cet entraîneur, l'OM ne progressera pas. J'en suis absolument convaincu.
On attend vos réactions au 32-16 sur l'application Direct Studio également. On rappelle que Marseille est 5e à l'issue de cette 11e journée. Ils sont à 3 points de la 3e place de Montpellier et joueront d'ailleurs face à Montpellier. Ce sera dimanche prochain, match que vous pourrez suivre bien entendu sur RMC. Ta réaction Pierre à l'avis là, de Daniel?
Sur l'avis, enfin sur la première partie de l'avis ou les deux tiers, même les trois quarts de l'avis, je suis d'accord avec Daniel. On en déplaise à ceux qui en ont marre que je sois d'accord avec Daniel. Sauf que là, je peux pas dire autre chose sur l'analyse de match honnêtement de Rudy Garcia hier. Effectivement, pour moi, ça manque aussi de lucidité, parce que, ou alors c'est qu'on n'analyse pas pareil le match. Hein, c'est peut-être lui qui a raison, hein, mais honnêtement, on n'a pas vu ni un grand Paris d'ailleurs, ni c'est problématique pour l'OM, c'est que même quand Paris n'est pas super bon ou au-dessus ou dans une maîtrise totale comme parfois ils sont sur certains matchs, l'OM n'a pas réussi à se montrer dangereux. Honnêtement, je sais même pas le coup franc de Payet, tu le mets dedans, il est plein axe sur le but.
Il faut bien mettre quelque chose.
Non, on n'est même pas obligé si c'est pas la vérité. Il y a la frappe d'Amavi, ouais peut-être, et après il y a aucune occasion franche. Donc, même les chiffres dont on parle qui sont équivalents pour les deux équipes, t'as d'un côté des frappes qui sont sauvées sur la ligne, des vraies occasions de but, etc., et de l'autre côté des frappes qui honnêtement n'ont inquiété personne. Donc même là-dedans, même dans les chiffres, c'est pas un match à jeu égal. C'est pas parce que je vais préciser aussi parce que j'ai joué au PSG,
mais
etc.
Tout le monde le sait, Pierre. Tout le monde l'a vu.
Tout le monde l'a vu.
Le problème, c'est que il enrhume les supporters les plus obscurs de l'OM. Quoi.
Alors on vous attend justement.
Là-dessus, je suis d'accord avec Daniel. Le dernier petit quart, c'est même pas un quart de l'avis, mais c'est la dernière phrase où effectivement la prolongation de Rudy Garcia. Moi, je mettrais pas tout quand même sur le dos de Rudy Garcia, parce que j'ai quand même l'impression que cette année, et là t'as raison Daniel, tu l'as dit, on l'a dit souvent ici d'ailleurs, faire une année comme ils ont fait l'année dernière, c'est exceptionnel, parce que tout le monde a tiré le meilleur de chacun, que ce soit Rudy Garcia qui a tiré le meilleur de ses joueurs, que ce soit certains joueurs qui ont tiré le meilleur du groupe avec eux, enfin voilà, tout était réuni et tout a marché en même temps. Sauf qu'effectivement, tu fais rarement deux saisons comme ça sur le fil.
Mais en quoi c'est pas de sa faute alors?
Ça n'est pas sa faute parce qu'on arrive aussi là aux limites de certains joueurs pour moi.
On arrive à ses limites à lui.
C'est pas d'anticiper ça, c'est de se dire l'année dernière.
Sauf que je pense que à mon avis, Pierre, toi t'as joué.
Explique comment il joue l'OM.
Je vais te répondre, mais à mon avis, je pense que Rudy Garcia cet été, il aurait adoré avoir peut-être un nouveau neuf. Il aurait peut-être adoré avoir un autre recrutement que ce qu'il a eu.
Bah, c'est parce qu'il
y a. Et qu'à un moment donné, oui, mais il peut pas le dire, cousin.
Bah, pourquoi? Très bien. Bah, attends, Tourelle a bien dit qu'il voulait un numéro 6, il l'a pas eu, il le dit.
C'est pas du tout le même contexte, c'est pas du tout le même coach, c'est pas du tout le même contexte.
Il a pas arrêté de dire que
Garcia, il se prive pas de parler, excuse-moi.
C'est jamais aussi à mon avis hein, c'est jamais, et d'ailleurs mon avis porte mais c'est jamais aussi direct
content,
et transparent
de Core Stars
que Tourelle peut l'être. Bref, je pense qu'il y a, bien sûr qu'il a une part de responsabilité, c'est le coach, c'est normal. Quand l'année dernière ça marche très bien et qu'il tient le meilleur, on l'encense, on dit que d'ailleurs tu l'as dit aussi Daniel l'année dernière, à un moment donné il tire le meilleur de ses joueurs et bravo à lui. Je pense aussi que là peut-être que lui n'arrive plus à le faire, mais il y a aussi, on atteint aussi les limites de certains joueurs honnêtement qui sont plus aussi efficaces ou encore c'est même pas efficace parce qu'à part Thauvin qui l'est efficace, il y en a pas beaucoup. Si Payet peut-être dans les passes décisives, voilà.
Ouais, statistiquement il est là.
Voilà, qui peut être là.
Ouais.
Mais les autres c'est très limite.
On accueille Omar, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16 et qui est en direct avec nous dans l'after. Bonsoir Omar.
Bonsoir.
Yes Omar.
Écoute,
bonsoir Omar. Ses parents étaient fans d'Omar Sharif.
Ah ben voilà, c'est pas moi. Moi c'est Omar qui est la douche. Et Beto, Daniel Beto, tu seras fan de moi, t'inquiète. Non, moi je vous trouve un peu noir quand même. Bon, on a perdu contre Paris, on a perdu, ok. Ils sont meilleurs que nous, ok, bravo. Que Mbappé y rentre, il marque. Il a fait à Mascherano, qui est quand même un grand joueur. Il a fait à l'Argentine. Il a fait à Camara qui a 19 ans. Je veux pas dire que c'est pas exceptionnel, c'est bien. Mais je veux dire, c'est pas non plus, j'ai l'impression, vous entendre depuis tout à l'heure, on a perdu contre Paris, voilà. c'est la fin du monde. On a perdu.
Eh, Omar, excuse-moi. Omar, pardonne-moi, je me permets de te couper très vite. Qu'on se comprenne bien. Non, c'est juste pour que tu répondes et qu'on se comprenne bien. Moi, j'ai pas beaucoup parlé. Enfin, c'est pas tant le match d'hier, moi, qui me gêne. Et en aucun cas, je dis que c'est une catastrophe. Je dis, si tu veux vraiment juste parler de ce qui est passé sur le terrain, que l'OM fait moins bien que l'année dernière dans le 2-2. À la limite, les matchs contre le PSG, je vais te dire presque, on s'en fout. C'est ce qu'il dit de ce qu'est l'OM. Et de la façon dont ils s'excusent de la défaite. Toi, tu dis, ok, ils étaient meilleurs. Toi, à la limite, t'es beaucoup plus lucide. Moi, ce que je lui reproche, c'est de vous mentir. Moi, je lui reproche de vous mentir.
Non, mais mentir, mais on n'est pas des idiots. Moi,
je sais bien, mais je veux pas qu'il mente quand même.
Moi, je le soutiens. Oui, mais après, chacun se fait sa propre opinion. Moi, Garcia, je le soutiens parce que c'est l'entraîneur de mon club. Mais par rapport à des entraîneurs que j'ai aimés dans le passé, comme Guéret, comme Gérard Gilly, comme Goethals, ça a rien à voir. Après, le truc qu'il y a, c'est que on se pose la question si l'effectif va faire pareil que l'année dernière. Bon, déjà en Europa League, c'est mal barré, mais après la saison, après le bal, on paiera les musiciens, on verra. Pour l'instant, on est à peine au mois d'octobre. Je veux dire, pour l'instant, on profite de Monaco, que cette année ils y sont pas. Sinon, en dehors de Paris, qui pour moi joue un championnat lui tout seul, on n'a pas de. Le seul véritable adversaire, pour moi à l'heure actuelle, sans faire offense à Montpellier, etc., c'est Lyon. Parce que je pense que je pense qu'ils vont s'écrouler, c'est mon point de vue. Je pense que c'est des clubs, c'est un peu des tubes de l'été, ça dure un petit peu, et puis après ça s'écroule parce que ça n'a pas d'effectif, etc. Moi, personnellement, j'attends beaucoup de Strootman, il est en train de revenir, il n'a pas été transcendant hier, mais
ça n'a pas été le plus mauvais.
Hier, le PSG joue avec 4 joueurs qui, je sais même pas s'ils ont leur place à l'OM. Va les bousculer, bordel. Rentre-leur dans la gueule.
Daniel, je vais te dire une chose.
Ils ont pas joué pendant une heure, Paris.
Mais le petit Nsoki, moi, je le prends volontiers chez nous.
Mais tu le prends, ok, mais c'est un gamin qui commence. C'est comme, tu vois, évidemment qu'il y a...
Non, mais attends, et Choupo-Moting, tu le prends pas, Omar?
Il est mieux que Constance.
Vous comparez des choses qui n'ont rien à voir. Si vous voulez si vous voulez me faire dire à moi, supporter marseillais, que l'effectif de Paris il est meilleur, mais en toute objectivité, je vais vous dire oui. Mais ça,
il n'y a pas de débat là-dessus. Le débat, c'est ce qu'il vous raconte et ce qu'il fait de son équipe.
Mais il raconte ce qu'il veut.
Il raconte ce qu'il veut et il vous prend pour des cons.
Mais non, il nous prend pas pour des cons.
Non, mais toi, peut-être pas que toi, tu te sens pas con, mais je vous dis, la façon dont il parle montre soit des mensonges, soit de l'incompétence. Tu choisis.
Chacun, il se fait sa propre opinion. Après, toi, tu parles de la prolongation, tu dis c'est une bêtise.
Bon, moi, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle pour l'OM, ouais.
Je suis l'OM depuis 30 ans. Des entraîneurs qui viennent, on a vu que ça a jamais non plus servi le club. Donc, laissons-le travailler. Et c'est quelqu'un qui est pas fan de Garcia qui parle. Mais moment, faut être lucide. On le laisse travailler. Et puis après, on verra. Moi, je pense que sa feuille de route, depuis qu'il a pris le club, Daniel, tu sembles oublier où on était quand ils sont arrivés. On était dans les abysses de la Ligue 1. On se battait pour pas descendre. Après, je dis pas que c'est bien. Nous, évidemment qu'on a envie d'être champion. On a envie d'être en Ligue des champions aussi. Mais je veux dire, à Marseille, tu sais très bien que ça se passe pas comme ailleurs, que il faut vraiment du temps. Le temps, le temps, on le donne pas parce que on est impatient. Mais tu peux pas construire du jour au lendemain et puis sans chercher d'excuses, on n'a pas une puissance fond qui est le Qatar. Tu es d'accord avec moi? Tu m'accordes ça? Voilà.
Encore une fois, on va pas comparer, ça sert à rien, Omar. Moi, je te dis juste que dans ton groupe de Ligue Europa, t'as quand même le droit de faire mieux que ce que tu fais. T'as quand même le droit de plus bousculer le PSG qui joue avec une équipe B. T'as quand même le droit de pas réussir simplement 3 matchs cette année contre Guingamp, Caen et Monaco. Excuse-moi, Omar, je te trouve méga indulgent. Je savais pas que les supporters de l'OM avaient aussi peu d'ambition dans la vie.
C'est surtout preuve de sagesse, c'est-à-dire il est tempéré.
Ok, bah alors si l'OM maintenant c'est modération,
il y a de tout partout. Ils attendent d'avoir des supporters sages à l'OM aussi.
On parle de l'OM, d'un club qui a 150 millions de budget, qui est pas foutu d'avoir un avant-centre, qui propose rien du tout dans le jeu et qui baisse la culotte quand il croise le PSG. Merde quoi. L'année dernière, quand ils font le 2-2, l'OM, ils sortent, ils ont la tête haute, les Marseillais. Daniel, c'est bien. Après, ils vont au parc, ils prennent 2 fois 2 raclés. Garcia, il humilie l'OM en mettant une équipe B dans le 2e match, celui de la Coupe de France. Non, mais oh, les gars, arrêtez, je crois rêver ou quoi?
Omar.
T'es parti chercher l'OM. Moi, je t'explique. Moi, je préfère avoir ma position à moi que la tienne et après de dire je me suis trompé, comme tu t'es trompé pour l'équipe de France. L'équipe de France, tu t'es trompé.
Non.
Toi, ton ami Ménage et compagnie. Oui, parce que vous, moi, mais cracher sur des gens et après dire je me trompe.
Omar, il y a une différence, il y a une différence entre, il y a une différence entre ne pas aimer le jeu et le style d'une équipe et.
Je me suis trompé. Voilà. Moi, je tape pas. Moi, je dis, on verra. Après, à la fin, on fera les connes. Et s'ils sont mauvais, ils tapent. Voilà. C'est comme l'équipe de France. Vous l'avez ruiné, Deschamps. Vous l'avez ruiné, l'équipe de France. Et à la fin, eh ben, Deschamps, il vous a dit, et merci, au revoir, j'ai gagné, maintenant fermez-la. Tu
vois ce que je veux te dire? Omar.
Et c'est pareil, Omar.
Quels seraient tes objectifs à ce moment-là?
Je suis pas en train de dire que je suis content de ma saison. Moi, si tu me demandes, moi j'ai connu les grandes années, donc forcément, je peux être que frustré. Mais on est d'accord que maintenant, la configuration, c'est pas la même.
Et Omar, parallèle avec toi. À ce moment-là, Omar, Pierre, une question pour toi, Omar. Omar, avec sagesse, comme tu le fais là, avec du recul, comme tu le fais là, quels seraient pour toi les objectifs à atteindre pour l'OM? Alors, cette saison ou dans les deux prochaines saisons?
Cette année, si on poursuit la feuille de route, c'est d'être dans les deux, voire trois premiers. Voilà. Premier, on sait que c'est inaccessible. À un moment, faut être lucide.
Oui, ça, on oublie.
Paris, ils ont déjà 15 points d'avance. Je veux dire, bon, c'est inaccessible. Après, pour nous, le championnat, il se joue que contre Lyon. Et cette année, il n'y a pas Monaco. La chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas Monaco.
Et si tu n'arrives pas à faire troisième?
Eh ben, ça serait un échec. Je te le dis clairement.
Bah voilà, Omar, il attend la fin de saison. C'est-à-dire, si on fait pas troisième, bah là, voilà, ça aurait été une saison ratée. C'est ça, Omar.
Oui, après, si je résume.
J'ai pas compris, excusez-moi.
Je disais, si toi, là, t'attends la fin de saison, si tu fais pas troisième, tu diras, c'est une saison
ratée. Donc en fait, tu me dis, voilà. Donc en fait, Omar, tu me dis, en fait, tu me dis, Omar, tu me dis, sur l'équipe de France, attends, tu me dis, sur l'équipe de France, t'es pas foutu de voir que la France va gagner. En gros, tu me reproches de pas voir que l'équipe de France va gagner.
Tu m'écoutes même pas.
Ce que personne a vu. Mais sur l'OM, tu veux même pas envisager ce qu'ils peuvent faire ou tu attends la fin pour dire ça va être un échec.
Daniel, l'année dernière, et toi le premier, vous nous avez enterrés. Et à la fin, est-ce que tu aurais pensé qu'on fasse une finale de Ligue Europa? Personne. Voilà. Donc, tout le monde nous a enterré l'année dernière. Et après, on a fait la finale.
J'ai pas souvenir que beaucoup aient enterré l'OM, si ce n'est qu'on a été extrêmement critique après le OM Rennes, qui était quand même au mois de septembre.
C'était en début de saison.
C'était vraiment en début de saison, mais personne a enterré l'OM. Là, je trouve qu'Omar, tu délires un peu.
On a souvent dit ici que l'OM, justement, avait notamment un état d'esprit irréprochable. Ça, on l'a souvent dit ici.
Voilà, on le disait toujours.
Après, on a souvent dit aussi qu'il y avait quand même des lacunes. Mais ce qu'a fait l'OM l'année dernière, c'est tu vas en convenir aussi. C'était quasiment inespéré. T'es d'accord avec ça?
En début de saison,
Omar, tu pensais aller en finale d'Europa League?
Omar, c'est surtout que t'as des gens ici qui critiquent certains choix, certains coachs, certains matchs, et il y en a d'autres qui critiquent pas. Il y a de tout partout. T'en es la preuve, Omar.
Je suis en train de vous dire. Attendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je suis en train de vous dire, c'est que on a démarré la saison de la plus mauvaise façon. On en avait pris 6 à Monaco. On avait pris 3 à la maison contre Rennes. En 3 matchs, on était déjà l'année dernière. Il y a eu, je pense, le match contre Paris, le 2-2 complet, qui a été, je pense, selon moi, un déclic, puisque après, cette équipe a montré qu'elle avait du potentiel. Voilà. Après, on rate, malheureusement, parce que je suis pas en train, vous parlez pas à un mec qui est fan de Garcia, c'est ça que vous comprenez pas.
Si.
Moi, Garcia, je lui reprochais de pas gagner contre les gros. Bon, cette année, on a gagné Monaco, mais ça fait plus partie des gros. Mais après, ce que je veux dire, c'est que, il y a pas tout à jeter dans le truc. Bien sûr qu'il y a des rectifs. Bien sûr que moi, je marronne d'avoir un Germain Mitroglou et que j'aimerais avoir un Agüero, un Alexis Sanchez, ou un joueur de cette...
Ouais, enfin bon, on a compris. Toi, t'attends la fin de la saison. Mais si t'attends la fin de la saison, tu dois t'emmerder tous les jours. Tu parles pas de foot, alors.
Omar, merci d'avoir été avec nous.
Ça doit être chiant, hein.
Allez.
Omar, merci beaucoup.
Allez, ciao,
à bientôt, Omar. Bonne soirée. Ciao, Omar. Merci. Salut.
Un jour, il faudra quand même me présenter tous ceux qui avaient vu que l'équipe de France allait être championne du monde. Parce que visiblement, il y en avait beaucoup, quand même.
Non, mais c'est pas ça ce qu'ils disent. Ils disent pas qu'ils voyaient la France championne du monde. Disons qu'ils estiment que ceux qui estimaient que la France allait se cracher en jouant comme ça, bah, se sont plantés.
Ah oui. Voilà. Effectivement, oui.
Voilà, c'est plutôt ça. Tu vois ce que je veux dire? Pas d'accord. Pareil. Il y a une subtilité quand même.
Non, mais c'est à peu près pareil, parce que si jamais tu les vois absolument pas capables d'être champions du monde, c'est que tu te dis ils vont pas y arriver comme ça. C'est un peu pareil.
Ouais, mais toi tu disais après, derrière... en jouant comme ça, ils pourront pas y arriver.
Ah oui.
Eux ils disaient rien. Ils disaient bon, voilà.
Ouais, enfin toujours est-il qu'à chaque fois je ressors ça, mais évidemment personne n'est assez courageux pour aller voir, mais après le match contre le Danemark dans l'after, je dis ça se trouve ils vont y arriver en jouant comme ça. Voilà. ce soir-là, je l'ai dit, mais enfin, tout le monde s'en fout.
Non, mais c'est surtout uniquement parce qu'on retient. T'as continué de dire qu'il jouait, que t'aimais pas le style. Donc,
mais bien sûr.
T'as dit Paris dégage en 2016.
Je continue à le dire. J'ai une logique absolue dans ce jeu.
Ceci dit, pour en revenir à Omar, qui est quelqu'un de, effectivement, plus tempéré ou plus, avec plus de recul et en tout cas, qui laisse le temps faire. On a aussi le droit d'analyser objectivement un match ou une équipe ou une situation, pardon, à l'instant T et au cours de la saison. Et ce qui veut pas dire que ça ne peut pas changer. Peut-être que dans trois mois l'OM va mieux jouer, révélé, etc.
C'est ce que dit Omar.
Sinon, effectivement, comme a dit Daniel, on parle plus de foot pendant l'année, quoi. On attend.
Et puis surtout, eux, ils en parlent plus.
On lance la saison et on revient au mois de mai.
C'est bon, j'attends la fin de la saison. Le mec, qu'est-ce que t'as pensé du match hier? Non, j'attends la fin de la saison.
Dans quelques instants, la vie tranchée de Pierre Ducrot, qui a kiffé le management de Thomas Tuchel, qui avait laissé hier Mbappé et Rabiot sur le banc. Ils sont rentrés en cours de match. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live et sur l'appli Direct Studio. À tout de suite avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Et Pierre Ducrot et Daniel Riolo. On retourne du côté de Wembley, affiche de la 10e journée de Premier League, Tottenham face à Manchester City, Arthur Perrault.
71e minute de jeu, Nicolas, est toujours 1-0 en faveur de Manchester City face à Tottenham, avec à l'instant l'entrée en jeu de Kevin De Bruyne, qui fait son grand retour de blessure, lui qui avait été éloigné des terrains pendant plus de 3 mois à cause d'une blessure au genou droit. Et en tout cas, Manchester qui est toujours devant au score et qui mène 1-0. Et provisoirement, Nicolas, Manchester qui prend la tête de la première ligue à la différence de but devant Liverpool 2e et Chelsea 3e.
De Bruyne qui a déjà joué quelques minutes auparavant. On file également
aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais
non, pas aujourd'hui. Ouais. On part à Gabriel Montpied, Clermont face à Brest, l'une des affiches de la 12e journée de Ligue 2. Julien Taillé, très bon match.
Ouais, plutôt pas mal. Il y a des temps morts un petit peu. Il y a la météo également qui aide pas parce qu'il pleut. Il fait froid sur Clermont ce soir. Mais en tout cas, on a vu des buts. Déjà 4 dans cette rencontre. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. Et pour l'instant, ça fait 2 buts partout entre le Clermont Foot et le Stade Brestois. Les Brestois qui menaient 2-0. Et les Clermontois qui sont revenus grâce à un doublé de Florian Hayé. Les deux équipes ont eu des occasions pour faire basculer cette rencontre. Mais pour l'instant, le score est nul. Alors qu'on va entrer à l'instant dans le temps additionnel.
Merci beaucoup, Julien. Et on passe maintenant à la vie tranchée de Pierre Ducrot.
Mais moi, si je suis coach de Lyon là aujourd'hui, je me bouffe les couilles.
Tu as pas parlé de Lyon, mais du Paris Saint-Germain et du coach du Paris Saint-Germain. Alors hier, ni Mbappé ni Rabiot n'ont débuté le match face à l'OM. Les deux Parisiens qui étaient arrivés en retard à la causerie, eh bien, ont été sanctionnés par Thomas Tuchel, qui s'en est expliqué en conférence de presse. Écoutez-le.
Je n'aime pas jouer sans Kylian et sans Adrien, mais aujourd'hui, c'était nécessaire. C'est une décision très très difficile de faire ça. Avant un match grand, avant un classico, et tu peux savoir que quand nous avons fait ça, nous avons des raisons.
Et alors toi, Pierre, tu as aimé le management de Thomas Tuchel, justement?
Ouais, effectivement. Alors, pas pour revenir sur les faits dont tu viens de parler là, mais plus pour revenir justement sur les décisions et sur les mots qu'a eu Thomas Tuchel, les émotions qu'il a laissé paraître aussi, parce que là je vais partir du principe, en tout cas je l'ai ressenti comme ça, qu'il était extrêmement sincère et réellement touché par ce qui s'était passé.
Bah, il paraissait très agacé, notamment en première période sur le banc.
Ouais, alors déjà parce que je pense que du coup il avait très envie que ça se passe bien, et je pense, enfin on sait tous d'ailleurs que dans son management il est très méticuleux, très exigeant, très rigoureux. Et que pour lui, faut savoir que à la discussion, logiquement, c'est là où tu tournes la feuille sur le paperboard, même si les joueurs ont forcément une grosse idée de l'équipe qui va être alignée. Pour un manager comme ça, à ce moment-là de la journée, c'est-à-dire à la discussion, quand tu vas annoncer ton équipe, devoir barrer deux noms comme Mbappé et Rabiot, et devoir les remplacer au pied levé par deux autres joueurs en qui t'as confiance, mais qui ont pas forcément en plus les mêmes profils, ça te change plein de choses. Nous ici qui regardons le match hier, on dit juste Rabiot il est remplacé par Draxler et puis Mbappé par Choupo-Moting. Allez hop, on y va, on joue. Pour un mec comme Tuchel, ça change des dizaines de choses dans son dans sa façon de préparer le match, dans ce qu'il avait prévu de faire tactiquement, techniquement, dans ce qu'il avait, les scénarios qu'il avait pu imaginer. Ce sont des mecs qui dans leur management sont très rigoureux. Donc rien que ça, la sanction qu'il prend dans l'immédiat veut dire que dans un match comme celui-là, qui reste un match particulier contre l'OM, avec un joueur comme Mbappé, est une décision extrêmement lourde pour lui à prendre, extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il est très touché à la fin et qu'il le dit. Je pense que c'est une réalité, il est extrêmement touché, c'est une décision extrêmement dure, mais il la prend. Il la prend parce qu'il sait aussi que dans son mode de management, où il a très envie de faire confiance aux joueurs, d'être proche d'eux, de les responsabiliser. À un moment donné, quand il se passe ça une fois, deux fois, trois fois, on sait que c'est pas la première fois, il est obligé de faire quelque chose de ce genre-là. C'est peut-être le plus mauvais jour pour le faire parce que c'est le, je vais pas l'appeler le classico parce que j'aime pas du tout ça, mais c'est un match
le choc,
avec une rivalité importante. Il sait que pour lui dans sa saison c'est un match important à gagner, quoi qu'en disent les gens, quoi qu'en pensent les gens, c'est le PSG, c'est Marseille, c'est un budget quatre fois etc., etc. Lui il sait que c'est un match important. Il prend cette décision là. J'ai la sensation que c'est un tournant. Je me trompe peut-être, mais j'ai la sensation que c'est un tournant. Il prend cette décision là difficile. Il y a des leaders dans le groupe qui le suivent et qui relaient le message qu'il a passé. Il y a eu Neymar après le match, c'est important. Neymar qui est l'ami de le vrai pote dans le groupe de Kylian Mbappé, qui va dans le sens du coach, qui valide le fait que quand tu fais une erreur,
il va dans le sens du coach et en même temps il dit c'est des joueurs importants. Enfin,
oui, voilà, il dit de façon prudente. Quoi. Il dit très clairement. Je vais même te dire autre chose. Il dit très clairement que le coach a eu raison de le faire, qu'effectivement le joueur a bien réagi, que c'est un joueur important et qu'ils en ont besoin. Il donne même le droit, en disant ça à Tourelle, de le faire un jour à Neymar, si ça lui arrive. Et j'espère que Tourelle le fera un jour, si ça lui arrive, à Neymar. Ça peut arriver à n'importe qui. Moi, j'en veux pas du tout à Mbappé ou à Adrien Rabiot d'arriver deux minutes en retard parce qu'il regardait le Real contre le Barça. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que tout le monde le suit. On n'a pas entendu les dirigeants parisiens. J'espère qu'on les entendra pas. J'espère que si l'un des deux avait la mauvaise idée d'aller se plaindre auprès des dirigeants, j'ai pas aimé la sanction, machin, on m'a privé d'un grand match, etc. Ou les deux d'ailleurs, j'espère qu'il n'y en aura pas, mais j'espère que les dirigeants auront l'intelligence de leur lui dire ou leur dire, vous savez quoi, maintenant c'est le coach qui décide et c'est lui qui manage ce groupe. Donc si t'es pas content, tu vois ça avec lui et n'importe quelle décision qu'il prendra, on suivra. Et à ce moment-là, ce sera un vrai virage dans le management qu'il est possible de faire au PSG. Il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents. J'ai l'impression que lui, il est en train d'essayer, d'abord en se mettant le groupe avec lui, puis en sanctionnant quelque chose qu'il faut sanctionner, qu'il est en train de faire quelque chose que beaucoup de ses prédécesseurs n'ont pas réussi.
On verra effectivement.
J'espère.
On verra effectivement si ça porte ses fruits. Je suis d'accord avec ton avis entièrement. Effectivement, on peut pas avoir reproché à ce club d'avoir été laxiste. On se souvient de Blanc qui avait sanctionné Cavani en retard, mais qui ensuite après avait fait n'importe quoi avec Aurier. Voix discordante, lui dirigeant, enfin bon, ça avait été une catastrophe absolue. Demery qui s'était pas immédiatement imposé parce que pas non plus complètement soutenu par les dirigeants.
Ouais, ça a jamais été totalement de leur faute au coach.
Et qui lui aussi avait fait jouer Aurier, alors que je veux dire un truc con pour revenir à nous, mais si moi j'étais coach, j'arrive comme nouveau coach dans un club, si je sais que dans le club où je signe, un mec s'est comporté comme ça avec l'ancien coach, franchement, je pense que je vais avoir du mal à bosser avec lui. Je demande son transfert au moment où je des pourparlers, je dis lui, je veux pas qu'on le garde. Et si les dirigeants disent oui, mais s'il l'a fait une fois, lui, il me le refera. Je sais pas, parce que moi, je vais être plus intelligent, je vais me faire plus respecter. Déjà, ça, tout est mauvais signe, tout ça. Là, lui, il fait ça. On verra quel genre de suite il peut y avoir à ça. Juste pour conclure sur l'affaire, Mbappé rentre, on voit qu'il est marqué,
il marque.
Rabiot rentre, et il est archi mauvais. Rabiot a pas une bonne attitude. Quand Rabiot ne sera plus au PSG, le PSG se portera mieux. J'en suis intimement convaincu depuis longtemps. Je l'avais dit à l'époque.
C'est très compliqué en interne, les rapports avec Antero Henrique, notamment.
Je vais mettre ça au conditionnel. Je sais pas si c'est vrai, mais déjà avant le match, Daniel, il y a une différence entre les deux, apparemment. C'est qu'il y a un Mbappé qui est effectivement vexé, piqué au vif, mais qui s'échauffe. Qui continue à faire ce qu'il doit faire, quand même. Et un Rabiot qui, apparemment, lui, refuse
de s'échauffer.
Ne s'échauffe pas, quoi.
Voilà.
C'est effectivement, ça peut paraître anecdotique pour certains. Si c'est avéré vrai, je mets ça au conditionnel parce que je me méfie aussi de ce qu'on peut lire ou voir. J'ai pas fait attention moi avant le match. Mais si c'est vrai, c'est une grosse différence.
De toute façon, il est beaucoup trop capricieux depuis longtemps. J'avais dit qu'avec Aurier, Kurzawa, le PSG n'irait nulle part. Le PSG, évidemment, n'est allé nulle part avec ses deux énergumènes. Rabiot est également un caillou à enlever dans la chaussure PSG. À moins que Tourelle réussisse quelque chose que personne n'a réussi avec lui, hein. Pourquoi pas, hein. Je vais me fier à ce qu'a dit Omar tout à l'heure.
Malheureusement.
Parfois, il faut laisser un petit peu de temps,
tu sais, Daniel,
pour éviter de se tromper, mais moi, ça ne me gêne pas trop de me tromper, c'est assez rare. Donc, non, mais je viens de temps en temps. C'est pas un problème.
C'est quoi,
c'est pas un problème.
On a quelque part, c'est important. Oui, c'est fini à Clermont, entre Clermont et Brest,
tu viens de dire.
Ouais, ok.
Ouais, score final de partout entre le Clermont Foot et Brest pour clore cette 12e journée de Ligue 2. Les Brestois ont eu leur mi-temps, c'était la première. Deux buts signés Jesse Pi et Mathias Autré. Et les Clermontois sont revenus à 2-2 dans la seconde période. Aillé signe un doublé. Score final donc deux buts partout.
Merci beaucoup Julien, bonne soirée. Et du coup Brest est 3e.
Est-ce que Aillé a un lien de parenté avec Tata Aillé?
Peut-être sa tante d'ailleurs. Non, moi j'allais dire, tu sais quoi, parce que là forcément on n'a pas revu toutes les interviews de Tourelle après le match, mais il y en a une où il est particulièrement touché. Et honnêtement, moi quand je l'ai écouté parler, j'ai senti vraiment de la tristesse et en même temps de l'agacement. Et je suis persuadé que c'est lié, Daniel, à ce que tu évoques là, c'est le comportement de Rabiot. Si tu veux, quand il sanctionne les deux, si les deux réagissent comme Mbappé, c'est-à-dire comme voilà, mentalement, on a fait une bêtise, on est sanctionné, on n'aime pas ça parce qu'on est privé d'un grand match, mais on lui montre que on est là et qu'il peut pas se passer de nous. Je pense que lui après, il sait que dans son management, il a pris la bonne décision et qu'en plus les gars, ils répondent. Et là, je pense que ce qui le rend triste, c'est que il a dû prendre une sanction et qu'en plus il y en a un des deux qui répond pas présent et qui derrière refuse de s'échauffer, ce qui est encore pire. Tu sais quoi, je serais presque même pas surpris qu'il y ait une deuxième sanction derrière si ça s'avère vrai ça.
On accueille Damien qui nous a appelé au 32-16 pour réagir à ton avis tranché, Pierre. Salut Damien.
Bonsoir monsieur.
Salut Damien. Alors qu'est-ce que t'en penses toi justement du management, de la gestion de ce cas de la part de Thomas Tuchel, de ces cas d'ailleurs?
Tout d'abord au début du match quand j'ai entendu quand les deux joueurs avaient été écartés, je trouve vu que c'était pour un retard, etc. Je trouvais ça normal, vraiment normal. Je me suis dit, comme vous disiez tout à l'heure, enfin de la sévérité, enfin de la rigueur. Néanmoins, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il les fait rentrer. Parce que là, Mbappé rentre, Mbappé marque, et Mbappé a prouvé qu'il est indispensable et que Tourelle a montré que sans Mbappé, il n'arrivait pas à gagner le match. Et pour moi, ça le fragilise quand même quelque peu par rapport aux autres joueurs et également par rapport, vous disiez la différence avec Rabiot qui ne s'est pas du tout échauffé et Rabiot est rentré quand même et Rabiot a été mauvais. Donc ok, il y a eu une différence de comportement, mais les deux, il a fait rentrer les deux alors que le comportement des deux avait quand même été différent au niveau de l'échauffement, au niveau du suivi des consignes.
Si je peux me permettre, Damien, là où je pense. Soit tu fais une erreur, soit on n'a pas le même avis. Juste après tout, je sais pas si on peut faire des erreurs dans les jugements de management. Ça regarde chacun. Je pense que de prendre la sanction déjà de ne pas les titulariser sur un match comme ça. C'est-à-dire ces mecs-là en Ligue 1 maintenant, les matchs qu'ils attendent, il doit y en avoir trois ou quatre dans l'année, dont celui-là. Et je pense que la sanction, elle est déjà énorme. De le priver d'être titulaire à ce match-là, enfin de les priver tous les deux d'être titulaire à ce match-là, elle est déjà énorme. Donc de les faire rentrer ensuite, si tu veux, c'est aussi une manière pour lui, je pense. Et là, c'est peut-être là où on perçoit les choses différemment. C'est peut-être une manière pour Tourelle de leur dire, voilà, je vous ai sanctionné les mecs, mais on est toujours ensemble. Je vous fais toujours confiance et j'ai toujours besoin de vous. C'est peut-être là où, tu vois.
Merci à Damien d'avoir été avec nous au 32-16. Tiens, juste un petit mot également vite fait. Neymar qui a commenté hier en zone mixte l'élection de Bolsonaro à la présidence de la République du Brésil. J'espère que Dieu l'utilisera, a-t-il dit, d'une quelconque façon pour aider notre pays, que sa volonté soit faite, a déclaré Neymar. Ouais, bon. Alors son père, qui d'ailleurs était très pro-Bolsonaro aussi, qui a publié pas mal de choses sur les réseaux sociaux.
Comme tous les 80-90% des joueurs brésiliens.
Bon, je sais pas si
beaucoup
de joueurs évangéliques, mais voilà,
beaucoup se sont exprimés.
Non, parce que la question lui est posée. Mais l'élection vient d'avoir lieu.
Celui qui lui pose la question, déjà, moi je trouve.
Président de la République.
Je trouve pas qu'il soit l'endroit dans une zone mixte après un match de poser cette question. Non, tu fais une interview avec Neymar à part, oui. Si tu veux,
après il est pas obligé de répondre
dans la semaine, etc.
Il est pas
obligé de répondre. Moi je trouve que de donner son avis sur une élection politique,
non, au mieux il te donnera une phrase que tu vas pas mettre dans un contexte. Ça se trouve il aurait envie de développer un peu plus ses arguments.
Il a pas envie de développer.
Il a pas envie de développer.
Normal.
Il a pas envie de dire. De toute façon, on sait bien que Neymar et ses amis et sa famille l'ont soutenu.
Bah là on le sait vraiment du coup.
Comme Lucas, comme enfin énormément de joueurs, Thiago Silva, beaucoup. Bon voilà et énormément.
Comme 80-90% peut-être des joueurs évangéliques.
évangélique. Après le reste, je sais pas.
Il y en a beaucoup.
Oui, il y a beaucoup de gens évangéliques.
Beaucoup qui se sont exprimés. Et comme 60% des gens du pays aussi, enfin 58.
Voilà, exactement.
Aussi.
Dans quelques instants, les questions de l'after avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo. Et puis sur les coups de 23h, vous le savez, on sera avec les drôles de dames. C'est terminé. L'Inter s'est imposé 3-0 ce soir. Ouais, L'Inter.
J'avais parié sur un match nul, moi j'étais bien.
Ah bah là, t'es pas bien. Victoire 3-0 à Rome face à la Lazio. Allez, à tout de suite.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Et Pierre Ducrot et Daniel Riolo, et vous également sur le hashtag RMC Live via l'application Direct Studio. On passe aux questions de l'after. On va débuter par Lyon qui s'est imposé à Angers ce week-end. Même fils de paille, lui aussi a débuté sur le banc. Il est entré en cours de jeu, lui aussi a marqué. Et il n'a pas aimé le fait de ne pas avoir été titulaire. Déclaration à l'issue du match de même fils de paille. J'en ai marre d'entendre à chaque fois que j'ai changé le match. Je ne me sens pas toujours comme un joueur respecté. Je fais le job à chaque fois, je suis fort mentalement. Je dois accepter les décisions du coach. Je suis un peu déçu, je pense mériter mieux que ça. Je devrais jouer à chaque match, a déclaré Memphis Depay. Alors Jean-Michel Aulas a réagi dans la foulée. Pour Jean-Michel Aulas, si Depay a réagi ainsi, c'est parce que c'est un grand joueur. Écoutez-le.
C'est là où il démontre qu'il est un grand joueur avec de la personnalité, c'est qu'il a su passer sur son amertume et sur la frustration de ne pas débuter le match pour nous permettre de le gagner avec ses collègues. Mais les grands joueurs, ce sont ceux qui ont le talent, mais qui en plus savent se remettre en cause quand on est en difficulté. Et là, c'est vrai que même en étant frustré, il a su délivrer le meilleur de lui-même.
Voilà, vous pensez quoi, tiens, de cette histoire Memphis Depay? Parce que c'est vrai que finalement, on en a très peu parlé, parce qu'il y avait justement le choc entre Marseille et Paris Saint-Germain le lendemain. Mais elle est forte, la déclat de Depay, quand même.
Ouais, elle est forte. Ouais. Il y a des choses qui sont entendables. Pour un joueur effectivement d'un certain niveau, frustré de pas avoir joué, qui rentre, qui fait ce qu'il faut. Et puis il y en a d'autres qui le sont moins. Moi j'ai presque envie de te dire que c'est pas dérangeant pour Genesio, vis-à-vis de Genesio ou de Aulas, etc. C'est gênant vis-à-vis des autres dans le groupe, quoi. Surtout c'est ça qui me dérange, moi. Quand tu dis moi je devrais jouer chaque match, c'est que tu ne considères pas les mecs qui sont en concurrence avec toi et qui peuvent éventuellement jouer à ta place. Et ça se dit pas publiquement.
C'est vrai que là c'est un désaveu pour celui qui est titulaire.
À la limite qu'il aille voir son coach en privé et qu'il lui dise droit dans les yeux, moi je suis pas d'accord avec ce que tu fais avec moi. Si t'es pas content de mes performances, on va voir le président et je vais voir ailleurs. À la limite, si vraiment il est pas content et qu'il a envie de le faire, là de dire ça publiquement, je trouve que c'est pas un bon message envoyé à tes potes, quoi, à tes collègues. C'est ce qui me dérange peut-être le plus. Après la déclaration de Jean-Michel Aulas, il va dire ça forcément publiquement
Il défend pas vraiment son coach
dans la plaie.
Je sais pas.
Non, mais il va pas descendre de paille,
tu défends pas vraiment ton entraîneur en faisant ça. Tu donnes raison à un mec qui remet en cause déjà ton coach.
Oui, mais là il l'a déjà défendu
oui. Voilà, c'est jamais.
Il y a des fois remarques, il a défendu Genesio.
Oui, un coup il défend, il déclare, voilà, il essaie toujours de louvoyer.
Il fait ce qui va poser le moins de problèmes, je pense. Il dit ce qui va poser le moins de problèmes, je pense.
Qu'est-ce que t'en penses de ces déclats, toi?
Bon, je suis de l'avis de Pierre, j'ai pas grand-chose à rajouter à ça. Ouais, c'est un peu gênant qu'il dit ça. Maintenant, on va pas découvrir aujourd'hui que Memphis pense principalement à sa gueule. Enfin, il dégage un individualisme qui est complètement fou.
Lui, hein.
Après, que ce soit l'homme dans cette équipe capable d'être à la fois pas bon et à la fois homme qui fait la diff.
Oui, c'est une vérité.
Oui, ça on le sait. Maintenant, j'imagine que s'il est pas toujours titulaire, c'est aussi la décision de Genesio.
Et puis, tu peux se justifier par une certaine inconstance de sa part.
De ce point de vue-là, Genesio doit être soutenu. Après, attention à la limite de ce type de management quand c'est trop souvent répété. Parce que ça doit pas être la seule clé de Genesio. Au début, c'était très bien quand il avait fait. Maintenant, si à chaque fois il fait la même chose.
Ouais, le joueur.
Mais là, quand tu regardes les stats, Lyon a disputé 14 matchs depuis le début de saison. Il a participé aux 14 de paille et finalement, il a été titulaire 10 fois. C'est pas non plus.
Ouais, bien sûr.
Le mec qui est toujours sur le banc.
Ouais, bien sûr.
Sauf que là, en plus, il est dans une période où il est plutôt bon en plus, quoi.
Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il est frustré d'ailleurs.
La frustration, elle vient de là, quoi. C'est qu'il comprend pas sûrement pourquoi maintenant.
Il y a pas mal d'appels au 32-16 de supporters lyonnais pour réagir à ça. Il y a notamment Anthony qui est en direct avec nous. Salut, Anthony.
Ouais, salut tout le monde.
Salut Anthony.
Alors comment t'as réagi toi face à ça, Anthony?
Eh ben, déjà avant la déclaration qu'il a faite, faut aussi parler du fait qu'il a refusé de s'échauffer, parce que quand on parle de ça,
faut aussi parler
du fait qu'il a refusé de s'échauffer quand on a cru que Moussa Dembélé était blessé gravement suite à l'attentat de je sais plus quel défenseur. Donc déjà quand on parle de ça, faut remettre tout dans son contexte. Et en plus, pour moi, c'est un, déjà un, je comprends totalement Memphis parce que il est benché assez régulièrement. Ça a été souvent le cas la saison dernière. C'était encore ce cas cette année sur des matchs importants parce que le match à Angers, même si c'était Angers et pas un concurrent important, vu les résultats de Lille, une non-victoire à Angers aurait pu être catastrophique, surtout que Lille avait gagné. Et surtout.
Oui, d'ailleurs, ça a été un match difficile pour Lyon, d'ailleurs.
Et ça a été un match super difficile parce que jusqu'au rouge, non seulement c'est pas qu'on est en difficulté, c'est qu'on prend une leçon de football comme à Hoffenheim il y a quelque temps.
Et donc. C'est vrai que même contre Angers, t'as quand même subi parfois et souvent.
C'est une supériorité numérique. S'ils sont un peu plus efficaces, Angers, ça peut très très mal
virer. Ah oui, mais
si Tess ne blesse pas.
Pas le poteau, un bon Lopez, il peut y avoir 2-0 pour eux. Et pour moi, Daniel, t'as touché du doigt un truc qui est super important dans ce cas-là. C'est dans le cas de Memphis, c'est à parler du fait qu'il faut pas que ça revienne trop souvent. Sauf qu'en fait, si vous regardez, parce que vous là, Nicolas t'a donné un stade c'est arrivé que 4 fois qu'il soit remplaçant. Mais à chaque fois, si vous regardez attentivement, c'est arrivé après des mauvaises performances collectives. Et à chaque fois, Memphis, à mon avis, il a le sentiment d'être un peu
d'être celui qui paye un peu
le bouc émissaire.
Voilà. Ouais. Et en plus, donc il refuse de s'échauffer. Mais j'ai en parlé avec Max, votre collègue du Standard. Et il me disait, dans un autre grand club, ça serait jamais arrivé. Mais moi, ce que j'ai répondu à Max, c'est ce que je vous dis, c'est qu'en plus, Genesio, le gars refuse d'aller s'échauffer. Et ben, Genesio, il est tellement dans la merde de s'être trompé, parce que ses choix de départ sont catastrophiques, parce qu'on, là, on parle de Memphis, mais on pourrait parler de Ferry, qui est titulaire à la place de Diop, et tout ça. Et il se retrouve tellement en galère, parce que un match nul à Angers, ça aurait été catastrophique, qu'il est quand même obligé d'aller revoir son joueur pour lui dire, bah, allez, cette fois, je vais te faire rentrer, va t'échauffer. Ça, le même cas dans un autre club, le gars, il refuse d'aller s'échauffer, on lui dit, OK, prends tes affaires, dans un vrai grand club, prends tes affaires, au revoir. Et le fait, la déclaration d'Olas derrière, qui allume un peu un pare-feu.
Ouais, mais Memphis, aujourd'hui, Lyon peut pas s'en passer. Le problème, c'est que Memphis, même irrégulier, c'est l'homme décisif de l'OL et que il est presque aujourd'hui, un mec très important pour l'OL.
Bah, d'abord, fait qu'il est blessé, Mariano est parti.
Ah, mais d'abord, parce qu'il y a, je pense du côté d'Olas, espoir du, parce qu'il est encore jeune de paille. Hein,
revente, tu veux dire?
Valorisation, revente. En même temps, on a besoin de toi parce que s'il se passe des choses bien pour nous, ça va être par toi que ça doit passer.
Le problème, c'est quand tu dépends d'un mec qui caractériellement est pas stable.
Ah là, exactement. Voilà,
c'est ça, mais ça, tu le sais quand tu l'achètes aussi.
T'en aurais deux ou trois qui auraient un peu plus le leadership que lui. Tu pourrais peut-être un peu mieux, un peu plus. Là, c'est plus compliqué, effectivement, comme nous le dit
Anthony. Qu'on remercie d'ailleurs, Anthony. Merci de nous avoir appelé au 32-16. On va parler de Rennes qui s'est incliné ce week-end à domicile 2-0 face à Reims. Reims qui était pourtant pas bien. Les Bretons qui comptent seulement 12 points après 11 journées. Alors, question simple, mais c'est quoi le problème avec Rennes alors?
Le problème avec Rennes, c'est que je crois que les nouveaux joueurs qui sont arrivés et qui ont fait beaucoup parler d'eux sont aujourd'hui un handicap pour ce club.
Tu penses à qui?
Mbanyang ne sert à rien, quasi. Et surtout, Tem Ben Arfa.
Ben Arfa, il va falloir du temps. Mais c'était après moi.
Le problème, c'est que il ne peut pas avoir de temps et être sur le terrain.
Non, mais on en a parlé de manière dernière. On peut pas dire qu'il sert à rien, Ben Arfa, aujourd'hui.
Bah, il est pas bon.
Non, parce qu'il a
Il a des coups d'éclat.
Non seulement, c'est Ben Arfa.
Non seulement, il est pas bon, mais il oblige, Lamouchi à composer son équipe en fonction de lui, à mettre Grenier dans des dispositions un peu moins bonnes pour lui. Je te dis qu'aujourd'hui, c'est un boulet.
En fait, tu sais ce qu'il faudrait pour que tu dises qu'il est pas au top. Je veux bien dire qu'il est pas bon.
C'est
franchement
un boulet. Voilà. Aujourd'hui, c'est un boulet. Alors qu'on a axé beaucoup de choses sur lui, la com, le machin. Je te dis pas qu'il pourrait pas devenir bon à nouveau. On a trop tendance à oublier que Ben Arfa n'a fait que 2 saisons dans sa vie, que ça fait plus d'un an qu'il ne jouait plus au foot, qu'il faut du temps. Mais le problème, c'est que si le temps pour se remettre en forme, il doit être passé sur le terrain. Ça va être un gros handicap pour Rennes.
C'est ce qu'il faut. Il faudrait qu'il prenne du temps, mais dans une autre équipe. C'est-à-dire qu'il peut-être aller faire 3-4 matchs.
Je crois qu'il va être accepté de faire 3-4 matchs avec la réserve.
Je sais pas, mais c'est presque ça.
C'est ce qu'il faudrait.
C'est presque ça.
C'est ce qu'il faudrait, c'est qu'il aille jouer avec la CFA 3-4 fois.
Mais pour qu'il se remette.
Ben oui, mais je sais pas s'il voudra. Alors, parce qu'il va y avoir, exactement comme Nico dit, ouais, mais c'est pas le plus mauvais. Mais c'est pas le plus mauvais. Pourquoi? Parce que, comme c'est un joueur offensif, comme tu le vois le faire 2-3 frappes de temps en temps, comme tu le vois, évidemment, t'as le sentiment qu'il peut éventuellement faire. Mais dans le jeu de l'équipe, la construction de l'équipe, pour l'instant, c'est un vrai handicap. C'est un handicap.
Mais tu crois pas que Lamouchi le mettrait dehors si vraiment il avait ce sentiment?
Je sais pas, il est quand même pas débile. Il voit qu'il est 14e de Ligue 1, que il est sur une série, une victoire en 8 matchs, tu vois.
Pour nous ici assis en studio, c'est facile d'analyser ça et de
le dire.
Pour lui, c'est un peu plus dur de se priver de Ben Arfa. C'est une décision forte. Et puis, il faut encore que le garçon ait envie de le comprendre. C'est surtout ça, je pense. Ça, nous, on le sait pas. On n'est pas dans leur relation. Je sais pas du tout. La réaction de Ben Arfa, si tu lui dis un truc comme ça, je sais pas du tout. Je dis pas qu'il accepterait pas. Je dis pas qu'il accepterait. Je ne sais pas. Ça, il y a que la Mouchi qui le sait.
Tiens, et sachez que c'est terminé entre Tottenham et Manchester City. City s'est imposé 1-0. Riyad Mahrez qui a marqué le seul but de cette affiche de la 10e journée de Premier League. On sera avec Julien Laurence, on reviendra en détail dans ce match tout à l'heure. Un petit mot sur Monaco également, alors qu'il a fait match nul 2-2 face à Dijon. 13e match sans succès pour l'AS Monaco. Alors Henri qui a expliqué en conf de presse, je suis obligé de rester positif dans le négatif. Comment il fait pour positiver? Comment on fait pour positiver en voyant ce Monaco aujourd'hui?
Et qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre en conf de presse? Honnêtement, la seule chose qui.
Non, mais la question c'est comment positiver du coup.
Bah tu perds pas.
Tu te raccroches
à des choses comme ça. Tu dis ce qu'il a dit. Il y a peut-être une période où Monaco aurait perdu ce genre de match parce qu'on n'aurait pas égalisé à la fin dans ce genre de rencontre. Tu dis des choses parfois qui sont pas forcément vraies, mais t'es obligé de les dire là. T'es dans une situation où si tu petit à petit tu récupères pas un ou deux joueurs, notamment des leaders qui sont pas encore au niveau, ça va être compliqué de faire face. Donc qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent en conf de presse contre Dijon? On a fait de la merde, c'était nul encore, on marque deux buts, on s'en sort bien, enfin tu plombes tout le monde quoi, tu il peut pas avoir ce genre de discours, bien sûr que non. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre?
Exactement, il faut de toute façon absolument qu'il reste positif, il sait qu'il va rien faire cette année, que tout ce qui
au mieux il se maintient, voilà.
Là tu parles de catastrophe.
Ils sont quand même à égalité avec le dernier aujourd'hui.
Monsieur Vassiliev parle de cette catastrophe.
C'est bien. Donc je pense que ce qu'il doit faire, c'est rester positif en envisageant et en espérant rapidement se caler entre 10 et 15 et faire la saison comme ça et en pensant à ce qu'il doit faire pour l'année prochaine. Il sait déjà que la saison elle est comme ça cette année. C'est fini.
L'after se poursuit dans quelques instants. Les drôles de dames arrivent pour faire un grand tour d'Europe, bien entendu. Sachez que c'est officiel. Lopetegui s'est fait lourder du Real Madrid. Ça vient de tomber avec un communiqué de presse. On sera avec Fred Hermel dans quelques instants. Mais qu'est-ce qu'ils lui mettent dans le communiqué de presse? Ah oui, c'est salé, là. Je peux dire qu'il le charge bien, Rulen Lopetegui, les dirigeants du Real Madrid. On sera donc dans quelques instants avec Fred Hermel, Julien Laurent, Simone Rovera, David Lortolari et bien entendu Pierre Ducrot et Daniel Riolo. À tout de suite.
RMC Football Show, l'after foot.